元宝。
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Nous sommes dans les studios de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. Après une longue attente à la maison, aujourd'hui nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Bonjour à toutes.
Aujourd'hui, une émission qui va commencer de façon ludique, puisque nous allons continuer un dossier que nous avons entamé ces deux dernières émissions. Et pour parler de l'un des plus grands salons de jeux de société, alors j'ai allé au monde, tant qu'à faire. Oh, et pour parler, bien sûr, de ce dossier, nous allons prendre avec nous un expert en ligne.
Notre correspondant en Allemagne.
Au téléphone. Alors, c'est la première fois qu'on utilise la technologie du téléphone à campus. Attention. Wow. Pierre-Yves, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends. Bonjour à tous.
Effectivement, il est en Allemagne. Il est très, très loin.
Alors, actuellement, non, je suis à Nantes.
Alors, c'est vrai que lorsque nous étions en distance, tu participais à l'émission et donc tu as suivi, bien sûr, en tant qu'expert de jeux de société, hein, ces différents jeux. Alors, aujourd'hui, on va parler... Alors, on a parlé de la catégorie enfant, on a parlé de la catégorie grand public et maintenant, on va entamer la catégorie expert.
La seule qui intéresse vraiment les gens, en fait.
C'est ça.
Ah. Les autres, ça intéresse les boutiques, mais ça intéresse les joueurs.
Ouais, après, même des jeux, enfin, de la famille... Les jeux familiaux, je pense que ça peut aussi nous intéresser pour tester d'autres jeux justement que les gros jeux dont on va parler juste maintenant.
Ça intéresse notre banquier surtout, qu'on achète des jeux familiaux.
C'est vrai, ouais.
Alors, trois jeux sont sélectionnés. Le premier pour cette édition du Spiel 2021. Alors, pour le nom complet, Pierre-Yves.
Spiel des Jahres, qui veut dire le jeu de l'année, donc en allemand.
Alors, le premier sera Fantasy Realm, le deuxième Paléo et le troisième Les Ruines Perdues de Narak. Alors, le premier Fantasy Realm, ça fait un petit moment qu'il est quand même disponible en France, dans nos boutiques, et qui n'a pas forcément fait un succès très notable.
Oui, alors, enfin, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, on pouvait déjà jouer de mémoire il y a 2 ans, justement à Cannes, donc lors du salon de Cannes. Je ne sais pas, toi, Dominique, si tu avais joué à l'époque.
J'en ai aucun souvenir, c'est dire que ce jeu m'a marqué.
Ouais, alors que pourtant, enfin, bon, moi, j'y ai jamais joué, mais je connais des amis qui ont joué et qui, eux, l'apprécient beaucoup. Alors, Fantasy Realms, c'est vrai qu'on peut dire, bon, il est dans la catégorie jeu expert, mais les parties sont courtes, parce qu'elles durent moins de 30 minutes. On peut jouer jusque 6 joueurs, quand même, ce qui n'est pas très, très courant. Mais c'est un jeu de cartes, en fait, enfin, c'est le genre de jeu où vous faites 3, 4, 5 parties d'affilée. Parce que comme je disais, le jeu est assez court, il coûte même pas 20 €, donc c'est vrai qu'on est assez loin des gros jeux auxquels on peut penser qui coûtent 50-60 €.
On peut donc même là, jouer sur tablette format. Et téléphone déjà.
Oui aussi.
Alors c'est un système un peu de deck building, dans le sens où vous allez remplir votre main. Alors c'est peut-être un grand mot, deck building.
Ouais, je pense aussi.
C'est peut-être péjoratif pour certains jeux du coup. Alors ici, justement, vous allez vous remplir votre main en piochant des cartes, et ensuite vous allez vous débarrasser de certaines cartes qui seront à la disponibilité des autres joueurs. C'est donc ça. Il va falloir faire attention aux cartes que vous allez libérer pour avoir une meilleure main. Mais,
ça veut dire qu'il faut de la mémoire en plus ? Oh non, c'est pour ça que je m'en souviens pas.
En fait, oui, quand vous prenez une carte, donc chaque carte, elle a un certain pouvoir, et en fonction de combinaison avec d'autres cartes, elle marque plus ou moins de points. Donc les cartes que vous avez en main qui ne valent pas beaucoup de points, effectivement, il faut vous en défausser pour en avoir d'autres, en piocher d'autres qui valent plus de points. Mais attention, quand vous en défaussez certaines, elles peuvent être récupérées par d'autres joueurs, et du coup, ces cartes, à ce moment-là, pourront valoir beaucoup de points pour les autres joueurs. Donc attention, parfois, il vaut mieux savoir peut-être garder des cartes qui ne sont pas très puissantes pour vous, mais... Si en termes de différence de points, vous pouvez mieux les garder plutôt que les donner à d'autres joueurs.
Le petit plus dans ce jeu, c'est que tu dis, dans ces cas-là, quand est-ce que ça s'arrête ? C'est que le tour de jeu, c'est tu pioches une carte et t'en défausses une, et c'est une défausse commune. Et la partie s'arrête quand il y a 10 cartes dans la défausse. Et tu peux piocher soit sur le tas de pioches, soit une carte dans la défausse. Donc c'est à toi de voir si ta main te rapporte assez de points pour espérer avoir la première place, ou en tout cas être parti dans les meilleurs, ou si tu vas devoir temporiser un petit peu le jeu et aller piocher dans la défausse pour éviter que ça arrive très vite à 10 cartes et que ça met fin à la partie. Donc à toi de construire ta main, en fonction de les cartes que tu possèdes, et de voir ce que les autres prennent dans la défausse, est-ce que ça les intéresse vraiment ou est-ce que c'est pour temporiser aussi.
Alors moi je pensais que ça faisait partie de la longue lignée des jeux Realm.
Comme Star Realms, Aero Realms.
C'est ça, mais ouais. Pas du tout.
Ah non, pas du tout. Non, non. On est, alors je veux dire, peut-être plus dans la catégorie de crew, enfin un jeu de cartes plus léger. Et, comme
on sort sur une terrasse de café par exemple.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais le but je pense c'est plutôt d'enchaîner plusieurs parties de suite. Plutôt que donc, les autres gros jeux dont on va parler après, où là, une partie dure facilement une heure et demie, deux heures. Donc, ce n'est pas du tout le même type de format. Et pourtant, c'est bien dans la catégorie jeux experts.
On est dans un thème ici médiéval et fantastique, ce qui peut plaire à la majorité de joueurs. Donc, on peut éventuellement broder un peu de roleplay autour du jeu de cartes.
Ouais, l'éditeur, je vais citer un peu la fiche technique. L'éditeur, c'est WizKid, et c'est un auteur américain qui s'appelle Bruce Glasgow. Il est... connu surtout pour avoir fait un jeu qui s'appelle Betrayal at the House Horror. Enfin, c'est un jeu qui n'a rien à voir, c'est un jeu d'horreur, un jeu d'ambiance d'horreur, etc. Donc, c'est deux jeux pratiquement qu'il a fait jusqu'à maintenant.
Mais on parle d'une catégorie expert, c'est pas forcément un jeu vraiment expert. Il est vraiment à la limite du jeu grand public.
T'as deux lectures quand même. T'as la première lecture qui est je pioche, je défausse et je vais faire mes points. Et après, t'as vraiment le jeu de cartes.
C'est la catégorie Uno.
Voilà. Et après, t'as le jeu de cartes un peu expert. Bah, va demander à ceux qui font des tournois de belote, va leur dire ah ouais, non, mais la belote, moi je la joue avec l'apéro. Ouais. Va voir comment tu vas te faire recevoir. Bah, déjà, si tu ressors vivant de la pièce. Mais là, tu peux faire cette lecture-là. C'est voir quelle carte tu vas défausser, où il a pris cette carte-là, donc tu vas réfléchir. Enfin, tu peux te torturer la tête.
C'est important de voir, c'est la rejouabilité dans ce type de jeu, voilà. Effectivement.
Ouais. Bon, y a quand même une lecture qui peut être adaptée au jeu grand public.
Ah, tout à fait.
Je le mettrais dans la catégorie familiale plus. Hop. Par rapport à des jeux plus familiaux qui sont quand même plus légers.
Un petit jeu à glisser dans les valises, hop, que les vacances approchent, là.
Parfait. Parce que moi, dans ma tête, jeu expert, je sors la grosse boîte. Alors, on va en parler, puisque les prochains jeux...
C'est ça qui est intéressant, justement, dans cette catégorie, c'est qu'il y a des choses très différentes.
Alors, le deuxième jeu, cette fois-ci, c'est Paléo. Et on en a déjà parlé de Paléo, oui. Si je me souviens bien, au niveau de l'As d'Or.
Il était aussi nommé dans la catégorie jeu expert pour l'As d'Or. Alors, il n'a pas été retenu, hein, c'est pas lui qui a eu le prix. Mais effectivement, très bonne mémoire, il a bien été déjà nommé à l'As d'Or pour Cannes.
Ah, celui-là, tu ne le poses pas sur une table de terrasse, parce qu'il prend un peu plus de place et un peu plus de temps, effectivement.
Et de concentration aussi. C'est dur de se concentrer en terrasse.
Après, voilà, les parties, je pense, être environ une heure de jeu. Ouais. Mais après, des enfants dès 10 ans peuvent déjà jouer, voire même un petit peu avant... vos enfants sont très joueurs.
On est dans l'univers des hommes des cavernes, etc. Donc c'est un jeu très plaisant.
Oui, puis c'est le seul jeu qui est présenté en tant que coopératif, où là tous les joueurs vont parler entre eux. Donc même si on ne sait pas trop jouer, on va se faire aider par les copains à côté pour savoir quoi jouer et surtout comment. Parce qu'on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble sur ce jeu.
Alors pour les règles du jeu, on va devoir un peu reconstituer une fresque murale. Et pour cela, il va falloir remplir plusieurs objectifs tous ensemble en récoltant, je suppose, des ressources. Et ça a l'air assez complexe pour l'initiation, je pense.
Ben, n'oublions pas que ça a été fait quand même par un spécialiste du domaine donc de la préhistoire. L'idée étant de recréer un peu ce que rencontraient les hommes de la préhistoire à l'époque. Donc déjà, pour pouvoir dessiner cette fresque, il faut déjà réussir à chasser, à se nourrir tous les jours, à se protéger. Vous allez avoir des petites missions pour justement récupérer de la nourriture, récupérer aussi des pots et autres. Et alors à chaque fois, vous prenez des risques en fait, vu que ce sont des cartes qui sont face cachée, donc vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Par contre, grâce à leur recto, ça vous oriente un peu sur ce que vous pouvez trouver. Et du coup, c'est un peu prendre des risques en disant tiens, telle carte, moi je pourrais y aller. Par contre, je vais peut-être avoir besoin d'aide d'un autre joueur pour m'aider, admettons, à tuer le monstre et autres. Donc c'est là où c'est l'aspect coopératif qui va faire que tout le monde va gagner ensemble, en sachant que au départ vous avez deux personnages dans votre tribu, donc chaque joueur a ses deux personnages, et si jamais ils se font blesser, ils peuvent aussi mourir.
Et du coup tu peux te retrouver sans jouer. Est-ce que c'est le genre de jeu où tu gagnes tout seul à la fin parce que tu t'es démerdé pour tes collègues et quelques soucis dans l'aventure
pour cacher la nourriture, ouais. Tu veux compliquer un peu le jeu, c'est comme ça un jeu. Tu parles quand langage des hommes des cavernes.
Ah, pas mal.
Quand tu connais bien le jeu, à force, tu vois. Que par signe, par borborythme.
T'as massue et tu frappes sur la tête de ton voisin.
Exactement.
Et un dernier, alors peut-être quelques caractéristiques pour Paléo, si quelqu'un a la fiche technique.
On n'a pas cité l'auteur, oui, c'est Peter Rustenmeyer qui est un expert effectivement en préhistoire, je crois qu'il est écrit.
Après, ce qu'on peut quand même dire, c'est que donc, au départ, on va distribuer des cartes aux joueurs. Les cartes, vous avez un module de base, donc des cartes que vous avez forcément. Et après, vous avez 10 modules différents. Vous en prenez 2 parmi ces 10. Et c'est parmi le choix que vous faites, c'est ça qui vous permet de moduler un peu la difficulté du jeu. Du coup, vous pouvez faire des jeux assez simples en introduction et puis prendre après des modules qui rendent le jeu plus compliqué quand vous commencez à vraiment bien maîtriser le jeu.
Ouais, parce que quand tu sais qu'une partie, effectivement, peut durer une heure, vaut mieux que ça soit... T'as pas l'impression d'avoir fait la même partie que la semaine dernière ou juste avant, quoi. C'est très important, la rejouabilité.
On peut féliciter Dominique Mayer pour les illustrations qui sont extrêmement bien réussies.
Pour un jeu allemand.
Donc voilà.
Disponible chez Z-Game. Z-Man Game, pardon, l'éditeur.
Voilà. Si vous êtes passionné de préhistoire, c'est le must à avoir dans votre collection de jeux de société. Et on enchaîne avec le dernier jeu. Alors cette fois-ci, qui s'adresse aux fans d'aventure. Hein. C'est... Les ruines perdues de Narak. Alors ici, on part sur la grosse boîte.
Ah, c'est déjà, oui, effectivement, le jeu, le plateau est très grand. Là, on est plus proche des 60 euros, alors que Paléo était plutôt autour de 45. Et ce qui est amusant, c'est que le titre anglais, en fait, c'était les ruines perdues de Arnak. Quand ils ont fait la localisation en français, ils se sont dit, bon, on va peut-être pas garder Arnak, ça sonne pas très bien en français, c'est pas très vendeur. Donc en français, c'est devenu les ruines perdues de Narak. Et on va diriger, comme tu disais, des aventuriers. Là, on est plus dans la catégorie deck building, parce qu'on va pouvoir acheter des cartes, et puis c'est en jouant ces cartes qu'on va pouvoir faire certaines actions. Et on récupère nos cartes en main, et puis on rachète des cartes pour faire des actions plus puissantes. Il y a aussi un plateau avec des actions, là vous passez vos aventuriers, qui vous permettent de gagner souvent des ressources, hein, pour pouvoir avancer sur une piste de technologie. Vous allez pouvoir aussi affronter des grosses créatures. Et quand vous y allez la première fois, vous ne savez pas trop de quelles armes, de quel objet vous avez besoin pour vous débarrasser de la créature. Donc il y a aussi un peu un aspect découverte. Puis oui, on est plutôt sur des parties de une heure et demie environ. Alors moi, j'y ai déjà joué plusieurs fois sur BGA, donc un site internet où on peut jouer à des jeux de société. Et franchement, c'est un jeu qui tourne très bien, qui est très plaisant. Il y a différentes manières de gagner. Je disais, soit en allant affronter les monstres, ou soit en progressant sur la piste recherche, ou soit aussi en achetant des cartes qui vous rapportent des points de victoire à la fin. Donc pareil, on retrouve un peu l'aspect aventure. C'est tiens, j'y vais pas, je tente. Parce que vous pouvez très bien aller affronter des monstres, même si vous n'arrivez pas à les tuer. Finalement, c'est pas bien gênant, mais votre aventurier ne meurt pas. Par contre, vous récupérez des cartes peur que vous mettez dans votre main qui viennent un peu pourrir votre deck, ce qui fait qu'au tour d'après, quand vous piochez 5 cartes dans votre deck, si vous retrouvez avec ces cartes peur, ça vous empêche de faire de meilleures actions. Un peu comme, admettons, quand vous avez joué, peut-être à certains d'entre vous, jeu de train, j'ai oublié.
Un jeu de train ?
Oui. En fait, vous dirigez un aventurier, pareil, un pistolero dans un train, et quand vous prenez des balles, pareil, donc ce sont des balles qui viennent pourrir votre jeu, et puis Colt Express,
Et
qui vous empêche de faire de meilleures actions.
C'est un jeu qui mélange vraiment tout, quoi. Deck building, ouvriers, ressources et tout, c'est la totale. Oui. On comprend la grosse boîte. Et là, effectivement, les parties peuvent durer un petit peu plus longtemps que le précédent. On a vraiment trois jeux très différents dans cette catégorie.
Et apparemment, il y a deux côtés sur le plateau, ce qui fait que quand vous avez terminé votre partie, vous pouvez retourner le plateau et entamer une nouvelle partie en gardant, si vous le voulez, quelques améliorations que vous avez faites durant votre aventure précédente.
Oui, après, alors les deux plateaux qui changent, en fait, c'est pour aller dans les lieux, le coût est un peu différent. Et puis c'est la piste de recherche aussi où les coûts sont différents pour progresser. On va dire qu'il y a un côté qui est peut-être plus recommandé pour les premières parties, pour les débutants. Et l'autre plateau qui est plus expert. Bon, mais ça change un petit peu le jeu.
Mais là, on est bien dans une catégorie expert. On a plusieurs types de mécaniques de jeu.
On peut même jouer tout seul à celui-là.
Oui, tout à fait.
Ce jeu de 1 à 4 joueurs. C'est intéressant. Je ne l'ai pas encore testé sur BGA, mais à l'occasion.
Ah oui, non, mais il tourne bien. Honnêtement, c'est une très bonne surprise.
Et c'est édité par Léo ?
Yellow. Éditeur français. C'est un jeu tchèque à l'origine, donc je ne vais même pas me lancer dans la prononciation des noms des auteurs et des illustrateurs.
Oh, Mikael Stach, il est connu pourtant. Il a fait pas mal de gros jeux, lui.
Ah, c'est notamment eux qui font les jeux Exit et qui ont fait The Crew également.
Yellow, oui. Enfin, qui distribue, en fait.
Oui, c'est un gros distributeur français.
Donc voilà, ça c'est vraiment un... Alors je pense qu'il a toutes ses chances, lui également, dans cette catégorie expert. Alors est-ce que, maintenant qu'on a, on a résumé toutes ces catégories, est-ce que vous avez déjà un petit pronostic
dans cette catégorie-là?
J'aime bien l'héroïne Polinarak. Bon, Fantasy Hollywood, c'est pas tout à fait mon type de jeu, mais en même temps, quand on regarde lequel jeu a gagné l'année dernière, c'est The Crew.
Ouais, j'allais dire la même chose.
Ouais, Fantasy Hollywood se rapproche plus de ce type de jeu, donc... Soit ils vont garder ça parce que c'est un peu un mini, ou soit au contraire, le jury va vouloir changer.
Il pour a franchement bon. Pas. Oui, mais The Crew avait fait tellement de buzz avant que c'était presque inévitable. Il n'avait même pas besoin de gagner, mais c'était un peu comme The Mind l'année précédente, ou il y a deux ans, enfin il y a trois ans, je ne sais plus. Le jeu avait déjà fait son succès avant, ça avait écrasé toute la concurrence. Donc là, j'en vois aucun qui se détache. C'est Narak dont j'ai entendu le plus parler dans cette catégorie, en tout cas. Pour la catégorie jeux enfants, je pense que c'est Drago Mignon qui avait gagné à Cannes. Je pense qu'il est parti pour. Hein, c'est pas, ça m'étonnerait pas. Et le troisième, donc on avait Zombitine, Micro Macro et Les Aventures de Robin des Bois. Celui qui fait le buzz, etc. Ben, c'est celui dont j'entends le plus parler, c'est Micro Macro Crime City.
Qui pour le coup a bien été édité. Bon, moi, je mets des points sur Narak. Allez, je pense que ce petit côté aventure et justement le fait qu'il y ait plusieurs types d'expériences de jeu dans un même jeu, ça peut plaire. Après, c'est peut-être un peu gros et un peu cher.
Ouais, je partirais plus pour Fantasy Realms. Pour le enfant, ouais, je resterais sur Drago Mignon parce qu'il est très bien constitué pour les enfants. Tu peux même l'utiliser en classe, quelle que soit la tranche d'âge. Les maîtres d'école pourront toujours trouver quelque chose pour faire apprendre aux élèves. Donc, ben, c'est, à mon avis, il battra les deux autres. Et pour le spiel, je partirais plus sur Les Aventures de Robin des Bois, qu'on avait expliqué, enfin, qui n'est pas édité en France, donc on avait essayé de l'expliquer, parce que c'est quand même un jeu évolutif et il y a des petites nouveautés sympathiques dessus. Donc, les Allemands connaissent des choses sur ce jeu que nous n'avons pas, donc pourquoi pas.
Ouais, et puis c'est vrai que ce jeu se rapproche beaucoup du jeu Andorre, qui a très bien fonctionné aussi. Donc ouais, je serais pas surpris que ce soit celui-là qui gagne côté jeu familiaux.
On vous donnera les résultats très prochainement. Et l'année prochaine, on va se réserver peut-être un voyage en Allemagne au cas où.
Enfin, je pense que ces genres de salons, il faut le faire au moins une fois pour voir à quoi ça ressemble. Bon, après, c'est vrai qu'à Paris, comme dire, Porte de Versailles, il y a aussi beaucoup de salons, hein, donc c'est un peu le même type. Mais juste pour voir vraiment la grandeur des halls, le nombre de personnes qui sont là, on a dû annoncer, je pense, peut-être 180 000 personnes sur les 4 jours en 2019. Bon, en 2020, il n'y en a pas eu forcément.
Ça risque d'être difficilement réalisable dans les années à venir, quoi. Ça semble quasiment impossible maintenant de se dire 180 000 personnes sur 4 jours. C'est. Voilà. On a l'impression de parler de science-fiction.
En 2022, pourquoi pas.
Pierre-Yves, merci beaucoup de nous avoir assisté avec ton expertise.
Merci à vous. Que cette année, en Allemagne, ils font vraiment le salon. Peut-être qu'on pourra essayer de faire une interview en direct. C'est compliqué, mais bon.
Vendu. On te remercie et on te dit à très bientôt.
Salut.
Alors, on va se... Bah oui, Dominique, un peu de musique.
Attention, je m'avance peut-être.
Alors, bah, j'ai une liste d'albums, comme d'habitude, qui est dans notre casier.
On se garde les meilleurs morceaux pour la prochaine fois.
C'est vrai. Alors, on a une liste de vinyles découvertes qui arrivera très prochainement. On propose un tease. Et j'en profite, puisque nous sommes à notre émission 98.
9.
99
oui. Ouais.
Donc nous allons fêter très prochainement la centième, ce qui fait que nous allons réaliser une émission spéciale, un parcours du monde musical avec nos artistes préférés. Ça sera très prochainement. Alors n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux ou sur le site de Radio Campus Lille. Alors je vous propose un album tiré au hasard, Garbage, qui propose un nouvel album, eh oui, c'est des groupes où on se dit, bah, ils sont encore là, eux. Eh ben oui. Alors, pourquoi Garbage? Alors, moi, si j'aime bien un peu ce groupe, c'est notamment avec leur batteur, qui est Butch Vig, et qui est un des. Alors, qu'on appelle ça un producteur de musique, et qui a travaillé avec Nirvana, notamment sur le Nevermind. Il a travaillé alors forcément avec Sonic Youth, Foo Fighters, à plein d'albums, et c'est marrant de le voir également en tant que batteur sur des projets comme ça, et notamment avec Garbage. Alors, l'album de Garbage s'appelle No Gods, No Master.
Et il sort le 11 juin.
C'est ça. Alors, un petit preview, du coup. Alors, ça casse une règle, parce que j'avais dit, on n'écoute pas l'album de Didier Bourdon, parce qu'il n'est pas sorti, et je casse la règle tout de suite.
Là, on n'a même pas de preview, donc là, au moins, on a un extrait. Alors,
si, on a un preview, mais vu le preview, je préfère attendre plusieurs chansons sur la liste. Allez, c'est Garbage, avec No Gods, No Master. Non, mais d'impatient qu'on réécoute des albums un peu plus découverts.
Je me disais que Ni Dieu ni Maître, c'est parfait pour Radio Campus. C'est un titre qui a tout à fait sa place. Parce que c'est un slogan anarchiste bien connu, quoi.
C'est vrai. Alors, on est loin des albums de 1995. Ça s'écoute. On enchaîne cette fois-ci dans l'émission Heureusement en France. Vous êtes bien sûr toujours sur Radio 106,6 FM DAB+. On va parler d'un événement de jeu de rôle qui se passe en ligne.
Ouais, c'est presque banal maintenant. Surtout que c'est, on va parler du Roll Internet, un festival qui se déroule principalement sur Discord. Alors pour toutes les informations, il faut chercher Roll In un petit tréma Ethernet sur Facebook. Tout se passe sur Discord. J'avais participé aux deux premières éditions, parce qu'effectivement, c'est la troisième, qui va se dérouler le week-end prochain, donc les 12 et 13 juin, je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et on peut même déjà réserver des places pour des parties de jeux de rôle. Oui, c'est un festival de jeux de rôle. Il y a encore, comme d'habitude, des parties, des conférences, des présentations. Il y a des auteurs qui sont là dans tous les salons Discord, comme un vrai salon, comme un vrai festival. On peut parler avec les auteurs, les créateurs, les animateurs. Et c'est toujours très intéressant. Je vais sans doute encore participer à deux, trois choses le week-end prochain. Il faut trouver le temps. Oui, c'est un week-end, un salon qui avait été créé un petit peu par hasard, mais qui avait eu tellement de succès que maintenant qu'on va pouvoir reprendre peut-être les festivals en vrai, en présentiel, ça serait pas étonnant qu'ils continuent quand même à le faire en distanciel.
Alors, si vous êtes passionné de jeux de rôle ou que vous en faites de temps en temps, c'est vraiment
un... Au contraire, si vous n'y connaissez rien, c'est vraiment impeccable pour découvrir. Il y a des tas de gens qui ont découvert le jeu de rôle par ce biais. Qui n'osaient pas aller dans des vraies salles, dans des vrais clubs, dans des vrais salons, parce qu'ils avaient un peu peur. Et là, tu peux même te participer, tu peux même rejoindre en tant que spectateur des salles où des joueurs sont en train de jouer autour d'une table et juste écouter, c'est ça, sans participer et te faire une idée de ce que c'est en vrai.
Voilà, et dans ces conférences, c'est des petits ateliers qui vont permettre de vous améliorer dans votre rôle de MJ.
De créateur de jeux, même d'auteur, etc. Enfin, c'est vraiment passionnant.
Il y aura même des petits jeux, hein, questions pour un jeu.
Des quiz, oui. C'est pratiquement un week-end non-stop. Parce que la nuit, comme c'est francophone, et la nuit, c'est souvent les Canadiens qui prennent le relais pour que toute la nuit, quand ça continue, 24 heures sur 24, il y a des animations, des parties et des gens qui parlent entre eux.
Voilà, et ça permet éventuellement de découvrir certains jeux de rôle. Alors bien sûr, on va avoir le fameux Donjons et Dragons, mais il y en a plusieurs, hein. Donc ça permet de faire de belles découvertes sur un week-end. Alors bien sûr, c'est dur d'assister du matin au soir.
Il y en a qui le font.
Un autre événement alors qu'on a pu voir et qui fait bien sûr référence à un sujet dont on aborde maintenant quasiment chaque semaine, on parle des Lego. Ouais. Alors non pas pour faire de la pub, mais puisque ils s'attaquent souvent à des sujets geeks, et cette fois-ci, là, c'est un événement qui va avoir lieu,
C'est une opération, oui, c'est ça, en rapport avec, organisé, en conjointement, je veux dire, avec le château de Fontainebleau. Et peut-être même d'autres grands monuments par la suite, qui permet de... Alors, on ne va pas demander de construire en briques de Lego le château de Fontainebleau taille réelle, quoique ça pourrait être un challenge, mais non. Est-ce que ce n'est pas déjà au château de Fontainebleau qu'il y avait eu des youtubeurs, on avait suivi des youtubeurs, des twitchers, qui avaient participé et fait visiter le château et d'autres châteaux à l'Europe. Donc on voit que c'est des événements, surtout que maintenant on va pouvoir voir, ces châteaux, tous ces lieux, cherchent à faire venir du public, et normalement du public plus jeune. Alors les youtubeurs, les twitch, ça fait déjà venir des gens un peu plus jeunes que d'habitude, on va dire que l'écart de retraités et de chinois qui ont d'habitude, mais là avec le Lego, peut-être qu'on vise encore plus jeune. Alors toutes les informations, c'est sur le site Histoire en briques, briques avec un S.com, et il y a des tas d'autres projets autour des briques. Et ils n'ont pas osé mettre le nom Lego dans le titre quand même, sinon ça, je pense qu'ils auraient dû payer.
Mais bon, il y a de belles présentations, et bien sûr pour les fans, vous avez bien sûr un shop sur lequel vous allez pouvoir avoir des jeux d'échecs en Lego ou autre. Mais bon, c'est assez intéressant, et surtout quand ça touche au patrimoine français, donc c'est bien sûr en collaboration avec le ministère de la Culture ici.
Ah oui, parce que Lego travaille et organise, participe à des événements et des expositions. Ils disent que depuis 2012, il y a eu plus de 2 millions de visiteurs sur toutes les expositions, que ce soit les expositions Star Wars ou les expositions historiques, même si certains considèrent que Star Wars, c'est de l'histoire.
Ah, c'est du passé, oui, c'est vrai. C'était il y a bien longtemps, on n'a même pas vérifié.
Des chevaliers qui se battent avec des sabres, c'est vrai.
On va parler maintenant d'un projet Kickstarter, même deux projets Kickstarter. Alors, on parlait tout à l'heure des Realms, de cette saga de jeux Star Realms, Hero Realms. Et le troisième, c'est Cthulhu Realms.
Tout à fait. C'est ça, bien vu.
Eh oui,
ouais, c'est des jeux, c'est tout sur le même principe, hein. C'est du deck building, c'est vraiment des jeux qui ont un peu renouvelé le principe du deck building, qui rendait ça très simple avec un thème très fort et une mécanique tellement simple à expliquer que c'est pareil, c'est le genre de petit jeu, tu sors la boîte à une table de café, puis tu enchaînes les parties, tu peux en faire 10-15 de suite pratiquement, et tu peux aussi jouer sur ton téléphone et sur ton ordinateur et enchaîner des parties toute la nuit si tu veux, façon Hearthstone, c'est un peu le même principe, et il y a eu des extensions qui ont eu du succès, puis inventé des mécaniques. Je crois que c'est deux anciens, à la base, c'est deux anciens employés de chez Magic, des gens qui avaient travaillé sur Magic, qui s'est dit, ah, on a nos petites idées, mais hop, ils sont sortis, ils sont barrés, ils ont pris leur argent, puis ils ont fondé leur boîte, ils ont créé leur jeu qui a super bien marché.
Et qui forge aussi de souvenirs, c'est aussi quelqu'un de Magic qui est parti.
Qui forge, c'est l'auteur, c'est le créateur original de Magic, il a fait.
Comme quoi, ils ont un succès pour aller pomper de l'argent chez les gens. Magic, c'est une bonne école pour ça. Alors ici, les créateurs de la saga Realms se lancent dans un nouveau jeu qui est disponible sur Kickstarter.
Qui s'appelle RoboQuest Arena. Le nom, c'est RoboQuest Arena Deck Building Game. Il reste dans le même principe. Ce n'est pas juste une nouvelle adaptation apparemment de Skyrim où on rajoute des figurines, mais c'est un petit jeu qui se joue jusqu'à 4 où on a chacun un petit robot et apparemment on va devoir le programmer puis éliminer les autres joueurs. Toujours avec le principe du deck building, c'est-à-dire que ton robot à la base il a pas beaucoup de pouvoir, il peut juste bouger, taper, ramasser des objets et petit à petit en achetant des cartes, etc., tu vas pouvoir lui donner des mécaniques supplémentaires, pouvoir mieux le programmer, le rendre plus rapide, plus fort, je sais pas quoi.
Un peu comme si tu l'équipais au fur et à mesure. Tu pouvais changer ton robot.
Tout dans un univers très, très, très kawaii, on va dire, pour rester poli. Ça a l'air très sympa.
Surtout que là, on parlait des jeux de cartes, alors que là, ça va être un jeu de plateau et de cartes. Voilà, les robots seront positionnés sur un plateau et tu devras programmer, un peu comme l'ancêtre du jeu de plateau qui s'appelait Droids, si je ne me trompe pas. Et tu devras faire tes programmations avec tes cartes, mais de fait, aussi aller acheter d'autres cartes pour... avoir une meilleure main pour mieux programmer ton robot aux conséquences des actions des autres joueurs. Donc, tu as un mélange de jeux de plateau et de jeux de cartes deck building qui se met en place.
Et bien sûr, lorsque ton robot est abattu, il revient avec tous ses points de vie et vous pouvez rejoindre
un nouveau. Il y a un petit côté jeu vidéo en plus, qui est qui est assez sympa dans le côté.
Alors, le projet, alors, demandait un objectif de 20 000 euros. On est à plus de 237 000 euros avec 3 500 contributeurs. Il vous reste 11 jours pour soutenir le projet. Alors, bien sûr...
Se termine le vendredi 18 juin au soir.
Alors, pour avoir juste le jeu, je pense que c'est une cinquantaine d'euros. Et ensuite, je me trompe, il y a juste deux moyens de soutenir, 49 ou 89 dollars.
C'est plus de la précommande, en fait.
D'accord.
Il n'y a pas besoin, le jeu est déjà complet tel quel, donc à part des petits packs en plus, parce que c'est ce qui est prévu, tu pourras pouvoir acheter éventuellement des petits packs en plus en boutique, etc. Donc voilà, c'est une façon de... Là, ils utilisent vraiment le jeu, non pas pour faire de l'argent, parce que je pense qu'ils en ont un petit peu, avec ce qu'ils ont vendu comme carte, mais c'est plus pour précommander et distribuer. Donc c'est 50 dollars, bon, j'imagine que pour l'Europe, il faut qu'on devra compter un petit peu de livraison en plus.
C'est ça, alors généralement tu te dis oh, c'est moins cher en dollars, mais quand tu rajoutes les frais de port.
Alors en ce moment, oui, c'est vrai que le dollar est avantageux, je crois, pour nous.
N'oublie pas de rajouter les frais de douane aussi.
Oh, oui. Alors avant d'attaquer un deuxième jeu Kickstarter, on peut enchaîner avec encore un peu de musique. Alors cette fois-ci, c'est un artiste qui s'appelle MNDSGN. Ça vous parle grave, hein, tout ça. Alors. Il sort un album qui s'appelle Rare Pleasure, les plaisirs rares. Et il va bien sûr essayer d'exprimer dans cet album un peu tous ses sentiments de plaisir et essayer de vous les communiquer, tout simplement. Alors, je vous propose, puisque il y a plusieurs pistes dans cet album qui s'appelle Rare Pleasure, on va s'écouter la piste Rare Pleasure 2. Voilà.
Il avait épuisé toutes les lettres de...
C'est ça. Oh,
surprenant. C'est complètement différent de ce qu'il faisait avant. Parce que lui, à l'origine, c'est vraiment un producteur, un beatmaker. Enfin, c'est, et là, c'est carrément du jazz. C'est étonnant.
Alors, est-ce qu'on a son vrai nom qui
Ringo, avec deux G ou deux N, je ne sais plus. Anchetta.
Voilà, alors je pense que vous avez tous ressenti le plaisir ici, hein, ce plaisir rare.
Il en faudra un peu plus.
Même deux ici. Alors, on parlait tout à l'heure d'un projet Kickstarter, un jeu de société, et nous en avons un deuxième. Alors, cette fois-ci, ça fait référence à une gamme de jeux de société qu'on a très apprécié, puisqu'on en a plusieurs sous la main. Alors, c'est toi, Dominique, collecte.
C'est Reynald qui est la collecte.
Ah, je pense que oui. Ouais, j'en ai pas mal de cette collection.
On peut dire que tu l'as pas sous la main, mais dans la main, parce que c'est des petites boîtes. Parce que tu confonds un petit peu avec la gamme helvétique Bandido, etc. Là, c'est d'origine japonaise, c'est pas de bêtises, et c'est des boîtes à peu près de la même taille, qui sont tout petites, à peu près de la taille d'un gros paquet de cigarettes, on va dire.
Sauf que ça, c'est bon pour la santé, les jeux de société. Ouais. Alors, ici, le projet s'appelle Oink Game Plus. Alors, O-I-N-K Games Plus.
Oink Game, c'est le nom de l'éditeur original japonais, et qui fait des jeux qui sont... On avait du mal à tous les trouver en France, ils n'étaient pas forcément traduits, mais il y a quelques éditeurs, distributeurs qui sont sacrifiés pour les faire venir. C'est des petits jeux avec pas beaucoup de matériel dedans, des cartes, mais des mécaniques vraiment super fun et originales.
Bon, bah là, je pense que Dom a tout dit. Après, au niveau matériel, ils sont quand même rattrapés sur les derniers où certaines boîtes ne changeaient pas de format, mais étaient bien remplies de petits jetons.
Et puis c'est des jetons un petit peu design. Quoi.
Et design, c'est leur marque de fabrique, en fait. C'est que quel que soit le jeu, tu auras toujours une petite touche design qui les change au niveau graphique des autres jeux.
Et puis la mise en page des boîtes, façon de parler, mais c'est toujours très coloré, avec des gros logos. J'ai l'impression, effectivement, je comprends que des gens soient intéressés à les adapter en jeu vidéo, pour que le but du projet Kickstarter, on ne l'a pas expliqué, c'est d'adapter ces jeux sur Switch. Et effectivement, je comprends que c'est très attirant d'adapter ce genre de petits jeux, parce que je pense que les développeurs à l'origine sont aussi des fans de jeux vidéo, et quand ils développent leurs jeux, ils ont vraiment l'esprit mobile, tactile, jeux vidéo en main, dans la tête.
Ouais, quand tu vas sur le site de One Games, j'y vais assez souvent pour voir les nouveautés sur leurs jeux de plateau actuellement, voir quels jeux sont traduits. Il y a beaucoup d'applications, justement, pour des jeux qui sont sur, généralement, iOS, pas encore forcément sur Samsung et compagnie. Donc, ils touchent sur les deux tableaux et se sont dit pourquoi pas taper là maintenant, justement, sur les consoles et donc les consoles familiales.
Puis en plus, c'est vraiment du pur jeu d'ambiance. T'as pas besoin de graphisme, mais c'est ça. On peut être tous autour de la table, autour de la même console et jouer tous ensemble au lieu d'avoir le matériel. Bon.
C'est assez bien réalisé hein, sur les premières images qu'on peut voir pour le jeu Switch. On est loin d'un simulateur de board game qu'on peut voir sur Steam ou autre. Ici, ils ont vraiment réussi à replonger dans l'ambiance de ces petits jeux, notamment avec Deep Sea Adventure.
Je pense que c'est celui qu'on a le plus pratiqué.
C'est celui qui a fait vraiment, vraiment démarrer la marque Wine Games en France. Et, parce qu'il y avait deux, trois jeux qui avaient été édités en France, ramenés du Japon, qui fonctionnaient moyennement. Et Deep Sea Adventure a vraiment fait éclater la game et pratiquement maintenant tous les jeux sont traduits derrière.
Alors, Deep Sea Adventure, vous allez disposer des pions qui vont plus ou moins représenter la profondeur.
C'est ça, on est tous dans un sous-marin, on a tous un petit personnage et le but en gros c'est de descendre de ramener des trésors, quoi. D'aller le plus loin possible, le plus profond possible et de remonter avec ses trésors, avec une petite mécanique qui fait que le fond remonte. Enfin, tu peux aller, tu peux prendre des risques, mais tu risques aussi de ne pas remonter ou d'avoir plein de trésors, mais tu as ton cadavre qui va flotter à la surface.
Est-ce que l'appât du gain ?
Exactement.
Et là, vous dites, dans ces cas-là, je prends un trésor, je remonte, après je redescends un et je remonte. C'est qu'une fois qu'on a décidé de remonter, on ne pourra plus refaire machine arrière, et aussi que l'air qui se trouve dans le sous-marin est commun à tout le monde. Et plus on porte de trésors, plus on consommera à notre tour d'oxygène.
On peut lâcher des trésors, si je ne dis pas de bêtises, pour remonter plus vite. C'est très amusant comme...
Et donc, c'est le petit jeu où tu vas aller chercher. Et c'est un jeu qui est, en même temps, du hasard pur. On jette un dé, c'est le résultat qu'on peut faire en tant que déplacement.
Oui, c'est ça. Mais c'est très amusant, surtout quand on joue avec quand on a fait quelques parties, on sait quoi faire, on prend son temps, on prend pas trop de risques. Mais quand un nouveau joueur qui arrive, je vais foncer, je vais prendre plein de trésors. Vas-y, on le laisse plonger, puis nous, on prend notre temps, et puis on remonte très vite. Et puis, il se retrouve tout seul coincé dans l'eau, c'est très amusant.
Et ça se tient, alors pour le coup, vraiment dans la poche, hein, un paquet de mouchoirs, hop, et puis on l'a mise en place extrêmement rapide. Et ils ont justement plusieurs jeux dans cette gamme. gamme. Et c'est une gamme de jeux où on a presque envie de collectionner, tellement graphiquement ils ont réussi à avoir leur style propre à eux.
Le seul défaut, c'est effectivement, comme c'est de l'apport, les jeux sont entre aux alentours de 20 euros pour la boîte, alors que pour le chez Helvetic, Bandido, etc., c'est 10 euros plutôt la boîte.
Ouais. Les prix sur leur site, c'est 2200 yens. Et donc, ça revient à 18 euros. Et donc, tu rajoutes la marge.
Tout à l'heure, on parlait des prix du Spiel. Bah, le jeu Fantasy Realms, voilà, c'est une plus grosse boîte, etc. Mais c'est que des cartes aussi. Et il coûte à peu près 18 euros aussi. Donc, et quand on collectionne, c'est ça.
Donc, bientôt disponible sur Switch. Alors, si vous avez raté le pledge, vous pourrez quand même y jouer sur votre marketplace de Nintendo, pour le coup. Alors, vu qu'on parle rapidement de jeux vidéo, on peut faire référence à une émission précédente de Heureusement en France, où on parlait de Microids.
Demain.
Alors, qui s'est spécialisé maintenant dans le remake de jeux rétro. Et ici...
De leurs propres jeux qui ressortent exactement, on en avait parlé la dernière fois, les tuniques bleues, etc., etc. Et parmi les jeux qui sont proposés, qui ont prévu de ressortir, il y a un jeu dans la série Siberia. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 3 qui doit accuser à sortir bientôt. Et on a appris justement que, fin juin, que Benoît Sokal, qui avait travaillé depuis le début pratiquement chez Microids sur la série des Siberia notamment, il est décédé le 28 mai, de suite d'une longue maladie, comme on dit poliment.
Et donc, il dessinait donc, pour Microids depuis déjà un petit moment.
Il est dessinateur de bande dessinée, je ne dis pas de bêtises. Il avait participé notamment au magazine français À Suivre, qui existait dans les années 70-80, magazine français de bande dessinée, très connu. C'est là qu'on l'avait découvert. C'est lui qui avait créé l'Inspecteur Canardo, pour ceux qui connaissent un petit peu la BD, et qui avait fini donc, chez Microids pour travailler sur des graphiquements, qui était art directeur, comme on dit en bon français, sur certains jeux.
Voilà, 25 ans de carrière. Bon, c'est vrai que Microids, alors on peut détester les jeux, mais graphiquement, ils avaient un style.
Oui, c'était vraiment d'excellents jeux. Ils sont très bien où ils sont. C'est pas la peine de les déterrer.
Alors, oui, on attend bien sûr un flashback. Alors, ce sera même pas un remake, ce sera une suite. Voilà, on attend avec impatience.
Flashback 2, c'est bizarre. Flashback, ils auraient pu l'appeler Flashback tout court. Parce que c'est un flashback sur un jeu qui s'appelle Flashback. Enfin bon, laisse tomber.
Ça venait peut-être compliqué.
Ou Flash Forward. Non, c'est pas grave.
Alors, d'autres actualités dont on a... on va rester dans le jeu vidéo ici encore une fois. On avait parlé d'OVH qui avait racheté la solution Shadow.
Exactement.
Et
on reste en français, ça va.
Et on s'aperçoit que certaines personnes commencent à déjà être mécontentes, et notamment au niveau de l'évolution des prix.
Shadow, c'était combien? C'était pas cher.
C'était 14,99€.
Ouais, 10-15€, oui, ce qui était très intéressant.
Et on passe à 30€, alors ce qui peut sembler légèrement élevé pour une solution de cloud gaming. Alors, pour le rappeler rapidement, ici, vous allez pouvoir, juste avec une connexion Internet et un PC de bas gamme, vous connecter à un PC de dernière génération et jouer. Alors ici, on est sur une Nvidia GTX 1080 avec 12 Go de RAM. On est pour 30€, on n'est pas forcément sur le haut de gamme qu'on espérait à ce prix-là. Donc, est-ce que ça ne risque pas de décevoir certains joueurs, sachant que derrière, on a plusieurs autres solutions de cloud gaming qui commencent à se généraliser.
La bataille commence vraiment. Là, les adversaires sont en place autour dans l'octogone, entre Stadia et Amazon de son côté, Shadow et tous les autres qui vont arriver. C'est bon, là, ça va commencer à taper, puis les prix vont baisser. Peut-être que ça va donner quelque chose un petit peu comme ce qui se passe avec les fournisseurs téléphoniques. Les FAI, voilà, la concurrence qui se stabilise, les prix qui baissent, etc. Et on va voir ce que ça donne.
Bah,
ça reste toujours intéressant, même si les prix sont élevés. Ça coûte moins cher que toujours moins cher que d'acheter un gros PC avec une grosse carte graphique, surtout quand elles ne sont pas disponibles. En ce
quand tu parles de concurrence qui se stabilise, c'est surtout qu'au bout d'un moment, il y en a un qui rachète tout le monde.
C'est aussi ça.
Chez les FAI, c'est ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ça va arriver dans ce domaine? Je ne sais pas, puisque ce sont quand même des majors qui se lancent chacun dans leurs produits. Je vois mal Amazon racheter demain Microsoft ou vice-versa.
De toute façon, dans ce domaine, ce qui va faire la différence, c'est le catalogue, clairement.
Bah, est-ce que tu as besoin vraiment d'un catalogue? C'est surtout le prix et maintenant la technique que tu auras derrière.
À quoi je vais pouvoir jouer? Est-ce que je vais vraiment pouvoir jouer au tout dernier jeu, etc.
Surtout si tu prends ça, c'est que tu as besoin du cloud gaming, que par exemple ton PC ne peut plus suivre et que tu n'as pas envie d'investir. Exactement. Donc est-ce que tu vas le faire pour un jeu, deux jeux ? Tu ne vas pas le faire pour tout un catalogue.
Ce qui va être très intéressant, c'est que toutes les dernières télés qui sortent, là, dont les prix baissent, les télés intelligentes, etc., qui sont connectées, tu n'auras même plus besoin de PC ni de console. Ta télé sera branchée sur ta box, sur ta fibre, et tu joueras directement. Il faudra juste que tu achètes une manette ou une manette, c'est tout. Et tu pourras jouer à tous les jeux hein, en payant. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu n'as pas les mises à jour à faire. Tout sera fait automatiquement. Quoi.
Alors, mais Dominique, pour les personnes qui n'ont pas de télé, eh ben, j'ai une solution pour elles, puisque vous pourrez... Alors, comme les cinémas ont vraiment eu beaucoup de mal ces derniers temps, ils se sont dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour faire entrer un peu d'argent et faire payer à plein pot des salles vides. Mmh. Eh bien, ils ont une super idée. Alors ici, on parle sur un grand cinéma de la région. Est-ce qu'on a besoin de le citer ? Oh, on peut, écoute. C'est le Kinépolis qui lance un service Play.
Kinépolis Play, trop bien.
Eh oui, alors là, ce n'est pas du shadow gaming puisque vous allez devoir ramener votre console.
Ah oui. En fait, le principe est très simple. Effectivement, ils ont des salles vides. Et tu peux privatiser une salle de cinéma.
Alors, c'était déjà le cas avant, mais... Oui. Là, c'est vraiment une offre spécialisée pour les gamers.
Effectivement, j'imagine qu'on pouvait, si tu voulais organiser un anniversaire ou une chose comme ça, tu réunis tes potes, tu choisis le film et hop, tu choisis le film que tu veux, et pas forcément un film catalogue, et tu as la salle vraiment que pour toi. Et là, donc, ça sera limité à 10 personnes, par contre, pas seulement à cause du Covid, mais et tu vas payer, alors la séance du Bad BT, je crois, c'est aux alentours de 200€ pour un peu plus de 2 heures. Et avec toi et tes 9 camarades, vous ramenez votre console et vous allez pouvoir jouer sur un écran de cinéma. Alors si c'est pour jouer au petit jeu Wayne Game dont on parlait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Ça peut être pour l'expérience.
Challenge accepté.
Ça peut être très sympa.
Est-ce qu'on pourra faire du shadow gaming?
Non, parce que tu n'auras pas de connexion Internet.
Ah bon?
Non, justement.
Bah, comment tu joues avec ta Play 5 si tu n'as pas de connexion Internet?
Jouer au jeu. C'est pour ça qu'il précise qu'il faut que ta console, tes jeux soient à jour avant de la nommer. Donc tu joues et tu la branches directement.
Ah ouais, qu'il n'y a pas besoin d'une authentification en ligne.
Exactement.
Ah ouais, non. Bon, on va ramener notre PS1, mais est-ce que ça vaut le coup de jouer sur un grand écran avec une résolution?
Sur une Game Boy et tout. Bon, si t'as les moyens, ça peut être sympa. Mais c'est une solution. C'est effectivement jouer sur un grand écran. À quel jeu tu pourrais jouer? Tu ressortirais un Dune 2, un truc comme ça?
Ah, bah,
un jeu qui joue à 10, ouais, c'est vrai que si c'est pour jouer à Among Us ou un truc comme ça,
comment
avoir de l'argent à perdre, quoi.
Après, si tu veux faire un très beau jeu qui se la pète sur un énorme écran de cinéma, tu vas prendre un jeu récent, voire très récent, et dans ces cas-là, tu es obligé d'avoir une liaison Internet.
Alors, je vais peut-être donner de mauvaises idées.
Un style Skyrim Company.
Mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu es vraiment obligé de jouer? Est-ce qu'ils vont vérifier que tu es en train de jouer avec ta manette? Est-ce que tu peux pas, du coup, pour la somme de 200€, te passer ton film de ton choix?
Bon, autant louer directement le film ou je ne sais quoi, oui. Ouais. Oui, après, tu peux faire ce que tu veux.
C'est ça. Alors, j'aime bien, c'est que le câblage est compris dans le temps. Alloué. Donc, il vaut mieux savoir brancher et vérifier avant, hein, au cas où vous ramenez votre console en VGA ou en Péritel, que c'est bien compatible.
Mais oui, effectivement, pour un anniversaire, un enterrement de vie de garçon, je ne sais pas quoi, ça fait une 20aine d'€ par personne, c'est une idée, quoi.
Voilà, bah, du coup, on se retrouve à faire de la pub. C'était pas le but, hein, mais c'est.
Les gens qui se
sont intéressés,
faut aller sur le site de Kinépolis et chercher Kinépolis Play. Voilà. Et peut-être que d'autres vont le proposer à l'occasion, quoi.
Bien sûr, vérifier dans tous les cinémas de la région. Hein,
ça... Pour l'instant, il me semble qu'il n'y en a que celui de l'Homme, Kinépolis, qui le fait. Après,
si ça
depuis...
a du succès, ouais. Ça va embrayer. T'imagines, ouais. Si tu fais ça dans un drive-in, en extérieur. Et...
Alors, on a cité Amazon tout à l'heure, et Amazon prépare une mise à jour importante sur tous ces devices, alors ces équipements notamment qui sont équipés d'une connexion Wi-Fi. Alors, ici, on parle des assistants vocaux, par exemple, tels qu'Amazon Echo.
Qu'est-ce qui n'est pas connecté maintenant? Un stylo, ton imprimante, ta poubelle, ton frigo, ton four, ta télé, tout est connecté chez toi, si tu veux.
Alors, est-ce que c'est parce que Jeff Bezos a quitté la société? Ça y est, j'ai cité Jeff Bezos, on est bon. Là, la mise à jour va... plus ou moins créer un réseau géant qu'ils vont appeler le Sidewalk. Alors ici, on parle d'un réseau Wi-Fi, d'un réseau Internet, quoi.
Entre les appareils eux-mêmes. Oh.
Voilà, donc ils vont s'interconnecter entre eux. pour...
C'est que quand tu partiras au boulot, tous les appareils de chez toi, tous les appareils des voisinages, ils vont discuter entre eux. Ils vont échanger des gossips, hein, des news, des rumeurs, etc. Puis ils vont les revendre. Ouais, c'est ça.
Et oui, ils se connaîtront aussi avec votre voisin et autres. Quoi.
On est vraiment dans le monde de l'espionnage à domicile. C'est bon, c'est parti.
Et le but est de créer ce qu'ils appellent un mesh network. Donc on peut appeler ça un réseau maillé pour que tout le monde... soit connecté, qu'on puisse localiser tout le monde.
Et surveiller, espionner tout le monde, etc. Ce qui va être amusant, c'est quand Google va faire pareil avec tous ses appareils connectés, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Apple, tous ses appareils connectés, j'imagine, ils vont se faire la guerre, tous les appareils. T'auras une maison qui sera... Amazon qui sera entourée par des maisons Google, ils vont se faire attaquer, ils vont déclencher un incendie, je ne sais pas, il y aura des guerres entre maisons dans les quartiers. On est là, on est dans un film de science-fiction où les objets deviennent intelligents et s'animent pendant qu'on ne regarde pas.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ne vous demandera pas votre avis.
Depuis quand ils nous demanderaient notre avis?
C'est quand même important de dire, tiens, j'ai un appareil sous Wi-Fi qui va envoyer je ne sais quoi, je ne sais où, et qui s'interconnecte.
Ils le font déjà. Hein.
Ils ne demandent déjà pas ton avis. Hein.
Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'assistant à la maison, mais bon, on a tous un téléphone. Hein. Ça en fait partie. Hein. Alors, quelques dernières actualités. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez sortir du sac d'actualité? Sinon, on peut parler un peu de voitures.
De voitures électriques. Oh, c'est l'avenir.
Alors, on parlait tout à l'heure d'un jeu de construction. Hein. Je ne vais pas citer le nom parce que ça va faire beaucoup. Mais maintenant, on peut construire tout et n'importe quoi. Et c'est le géant suédois. Décidément, aujourd'hui, on fait de la pub pour tout ce qui se trouve à l'homme.
Et en Suède?
Voilà. Alors, ce grand magasin...
Bleu et jaune.
Voilà. Où, quand vous allez...
On trouve des meubles.
Voilà.
Et quand... Mais pas que. Et des boules de viande.
Vous passez autant de temps dans le magasin et trois fois plus de temps après à monter ce que vous avez acheté. Là, c'est innovant. C'est une voiture électrique.
En bois?
Non.
Il y a peut-être des parties en bois, on ne sait pas.
Qui s'appellera la Hoga. Donc une voiture, bien sûr, d'IKEA, qui mesurera 2 mètres de long et 1,8 mètre de haut.
Les images, on dirait que c'est une voiture jouée, mais alors je ne vais pas sur l'autoroute avec, hein, je préviens. Mais donc on l'a construit soi-même, peut-être pas le moteur, il ne faut pas pousser.
C'est ça.
À part le moteur. Mais je vais le redire, comme un Lego, quoi, pratiquement.
Vous avez déjà galéré 2 heures à monter l'armoire à chaussures.
Tu n'as pas intérêt de te tromper aussi. Parce que quand tu te trompes en montant ton meuble, si tu s'écroules, c'est pas grave. Si tes bouquins ou tes affaires ne rentrent pas dedans, c'est pas grave. Mais là, une voiture, vaut mieux pas prendre de risques. Si tu la montes mal et que sur la route, elle explose, elle tombe en pièces, t'es mal. Elle perd des bouts derrière.
C'est très dangereux, on est d'accord, mais ici, sur la conception.
C'est pour ça que j'ai écrit une blague au départ.
Ben non, et on a vérifié, hein, vous pourrez rouler à 45 km/h et une autonomie de 50 à 75 km.
Ah ben c'est tout juste pour se promener dans le magasin en fait, mais pas plus.
C'est ça.
Vu la taille des magasins, je crois que c'est
au début, je pensais vraiment que c'était ça, que c'était une petite voiture électrique pour traverser les grands halls du magasin. Ouais. Mais non.
Non, c'est pour aller chercher ton pain et puis la recharger derrière, en espérant bien sûr... que tu as bien monté le modèle. Il n'y a personne qui ira vérifier derrière.
Non, par contre, le plan général de la voiture sera forcément homologué par les services compétents français pour dire oui, c'est une voiture qui peut rouler et qui va fonctionner. Mais par contre, ça sera à chacun de la construire. Donc, si toi, tu mets le pneu au-dessus du capot...
Si tu en achètes deux, est-ce que tu peux faire un mélange et faire une super voiture?
Tu te fais une méga limousine en achetant quatre.
Une Hoga Centipede. Je lance l'idée. Allez, on va terminer cette émission encore.
Non, juste rappeler que pour ceux qui veulent construire leur voiture, il y a quand même 374 pièces minimum à assembler, avec la clé N fournie comme d'habitude dans tous les paquets d'IKEA.
Wow.
Amusez-vous.
Ça promet. Et vous aurez bien sûr l'air un peu ridicule dans la rue. Ça semble un peu évident lorsque vous regardez les premières images de la voiture. On va se quitter dans cette émission, heureusement en France, avec un groupe qui s'appelle Wolf Alice, qui nous propose un nouvel album. Alors, c'est un groupe de rock alternatif qui nous vient
du nord de Londres.
Voilà. Et donc, depuis 2013, ils font de la musique. Et eux également font des morceaux avec des numéros 2. Donc, on ne pouvait pas s'empêcher de passer un morceau de leur nouvel album, Wolf Alice, avec The Beach 2. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, Portez-vous bien, ciao.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Liquid rose, and it shines the same fine color.